hikikomori. Ah, d'accord. Il y a le fait qu'on se renferme, et il y a le fait aussi qu'on est très bien chez soi, dans son confort, dans son cocon, dans son espace personnel.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Zen. 2 heures pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions qui flottent dans l'air du temps, mais qu'on a parfois du mal à saisir. Aujourd'hui, notre voyage commence au Japon. Merveilleux pays qui nous a donné le zen. Si important, rien que pour notre émission, parce que si vous enlevez le zen, ça fait
16 heures, zoom zoom zoom.
Ce qui n'a plus aucun sens, monsieur Demorand. Le Japon qui nous a donc donné aussi Akira Toriyama, Miyazaki, et plus important que tout, le petit pois grillé wasabi. Merveille qui a révolutionné les apéros des bobos du 11e arrondissement de Paris. Hélas, contrairement au cochon, tout n'est pas bon dans le Japon. Puisqu'on va zoomer aujourd'hui sur un phénomène assez terrifiant, le phénomène hikikomori. Ce qui est terrifiant, c'est d'abord bien sûr le nombre de fois qu'il a fallu à Cyril, notre rédacteur en chef, pour réussir à prononcer le mot sans se planter. Mais surtout, le syndrome hikikomori est effrayant puisqu'il consiste pour un individu, souvent jeune, à se recroqueviller sur lui-même, à se barricader dans sa chambre entouré de mangas et à jouer à Warcraft sur un lit tapissé de miettes de Pringles. En un mot, renoncer à toute forme d'interaction sociale et même...
La bouillave.
Surtout la bouillave, Quentin. Surtout un syndrome inquiétant qui existe aussi désormais chez nous. Alors comment l'expliquer? Comment le repérer? Comment faire en sorte que votre ado ne tombe pas dans la spirale de la désocialisation? Zoom Zoom Zen, monsieur Demorand, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Sophie Carquin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Sophie,
merci.
Vous êtes journaliste, autrice, vous écrivez des livres engagés sur les problématiques des adolescents, dont le dernier qui nous intéresse particulièrement, Hikikomori avec un E, dans le silence de ma chambre. Il est sorti en septembre aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est l'histoire d'une adolescente atteinte de phobie sociale. Vous allez tout nous dire de ce phénomène intriguant Hikikomori qui touche désormais la société française. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui n'ont pour le coup aucun problème d'interaction sociale. Leur problème n'est pas trop qu'ils ne sortent pas assez, mais au contraire qu'ils sortent beaucoup trop.
LNG, vous êtes toujours là.
Manon, Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour, c'est cette compilation.
Non, mais c'est des vrais extraits de nos soirées.
Oui, c'est vraiment vous, effectivement.
On va en enregistrer ce soir.
Oui, ce soir, et une autre soirée Zoom Zoom Zen qui s'annonce assez agitée, elle aussi. Manon, dans moins de 5 heures maintenant, vous serez debout sur le bar d'un célèbre établissement Montmartre 3 à nous asperger à vos frais de champagne millésimé.
Ce sera du Crémant.
Je préfère le... du Charles Volney.
Exactement. Ouais.
Mais avant cela, vous nous direz qui suivre pour aller plus loin sur ce phénomène hikikomori.
Eh bien, un personnage de manga hikikomori qui a marqué toute une génération.
Que je connais ?
Non.
Ah non, c'est pas ma génération, d'accord, très bien. Face à vous.
Oui, c'était
vous
court.
Avez beaucoup détaillé, c'est pour ça.
Oui, c'est vraiment...
Ça s'appelle un teaser, écoutez, bon.
Face à vous, Sophie Carquin, il est l'antithèse de l'hikikomori, l'hikikomicro. Un individu obsédé par le contact humain, en tout cas rémunéré. Oui. Quentin a ce besoin atavique, que Cyril, notre rédacteur en chef, n'a jamais compris, d'aller vers les gens. En tout cas, quand c'est rémunéré, effectivement, chaque après-midi, il leur tend pour les faire réagir notre mot du jour.
Oui, Cyril ne va pas vers les gens tout court. Il pousse les gens, comme moi, en studio en ce moment. Bref, ce mot japonais, hikikomori, qu'est-ce qu'il inspire dans la rue? Pas grand-chose, mais ça nous a permis de parler de la solitude qui, comme pour Barbara, se trouve parfois devant la porte.
Oh, c'est beau, cette petite touche de poésie.
J'aime
qui
Barbara.
S'invite dans votre ami. J'aime Barbara. C'est du OSS 117.
Parfait.
J'aime Barbara. Vers 16h30, le Japon est une terre de contraste. C'est pourquoi le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte d'autres tendances nippones bien plus fun que le hikikomori. On parlera nampa, joatsu ou encore nomikai. Et je vois au regard de Manon et Quentin que ça les inspire déjà. Juste avant 17h, ce sera le grand retour d'Elena Nagapétian. Mais d'abord, Sophie Carquin, comment vous avez-vous entendu parler la première fois de ce phénomène hikikomori?
Écoutez, je suis donc aussi journaliste psychosociété, donc à l'affût de toutes les tendances émergentes, évidemment, de notre société. Et moi, j'en ai entendu parler dans les années 2000 et j'ai écrit mon premier papier dans la presse en 2010, puisque j'ai refait un petit historique avant de venir ici. Donc ça fait quand même bientôt 15 ans que je m'adresse au phénomène et que j'ai pu voir effectivement le phénomène s'accroître, enfin la solitude des ados surtout se développer en France, puisque depuis 2010, ça n'a fait qu'augmenter malheureusement. En 2010, ils étaient quand même moins de 500 000 au Japon. Mm-hmm. Là, en ce moment, ils sont très nombreux au Japon, c'est vrai, beaucoup plus que chez nous, mais en ce moment, on dénombre entre 500 000 et 1 million au Japon et quelques dizaines de milliers en France.
Lui, Sophie, il a toujours eu un lien particulier avec le Japon, puisque son grand-père, Helmut Lacarrière, pilote de chasse dans la Luftwaffe en 39, l'a élevé dans le culte de l'Axe. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous écoutais pas.
Vous n'écoutez rien depuis le début de l'émission.
Il était mort de rire tout
déjà,
seul.
Oui, c'est vrai, j'essaie de respirer.
Oui, vous avez du mal. Hein,
la, ma vraie mission, c'est comment réussir à tenir jusqu'à 18h.
Avec une rhinite assez, assez prononcée. Hein.
Qui me fait éternuer.
Je vous esculterai hors antenne. Cyril, racontez-nous les hikikomori. D'où ça sort ?
Eh bien, hikikomori, du verbe hikikomoru, qui veut dire se cloîtrer, s'enfermer, se replier sur soi. Ils sont morts de rire, les deux enfants. C'est en 1998 que le mot est apparu. On le doit à un psychologue japonais, Tamaki Saito. Il l'utilise dans son livre « Adolescence sans fin », un livre qui n'a jamais été publié en version française. Tamaki Saito met un mot sur les mots de la jeunesse japonaise. Depuis le début des années 90, une partie d'entre elles se met en marge de la société, jusqu'à vivre recluse, se replier sur elle-même. Mais c'est lorsque Saito publie son livre que le comportement prend soudainement de l'ampleur, jusqu'à devenir un sujet de société au Japon. Les autorités sanitaires du pays commencent à se préoccuper de voir leurs ados vivre à l'écart du reste de la société. Pour celles et ceux qui vivent chez leurs parents, ça peut même aller jusqu'à ne plus sortir de leur chambre.
Mais alors que fait la police, Cyril ? Que font les autorités du pays, vous
voulez. Eh bien, en 2004, le gouvernement japonais se dote d'un outil pour détecter les jeunes dans cette situation. Cet outil s'appelle le Hikikomori Behavior Checklist, une liste de 45 comportements qui doit permettre de repérer les personnes concernées et, au bout du compte, tenter de les resociabiliser. Et là, tout le monde est sur le cul. 250 000 jeunes japonais présentaient le syndrome de Hikikomori et plus d'1,5 million étaient considérés à risque, ce qui est colossal pour l'époque. Au point, d'ailleurs, hein, c'est un phénomène qui était encore à ce moment-là, encore sous les radars. Au point que les autorités sanitaires ne sont plus les seules à s'intéresser au problème, les familles découvrent que d'autres vivent la même situation, des communautés s'organisent, des groupes de soutien naissent. Les hikikomori ne sont plus invisibilisés, c'est déjà le début de l'espoir d'un traitement. Alors, est-ce que ce phénomène s'est répandu au-delà des frontières du Japon ? La crise sanitaire a-t-elle fait naître une nouvelle génération de personnes atteintes de ce syndrome ? Comment le détecter, le soigner ? Est-ce que d'ailleurs c'est possible ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, je tiens à vous féliciter tout particulièrement aujourd'hui parce que vous avez réussi à prononcer Hikikomori Behavior Checklist, ce qui, ouais, dans votre état, je veux dire quand même que le pronostic vital est engagé et vraiment relève de la prouesse. Merci encore Cyril. Sophie Carquin, en plus d'être romancière, on l'a dit, vous êtes journaliste, vous avez écrit une enquête en immersion dans une unité de pédopsychiatrie. On va revenir sur le phénomène plus, oui, précis Hikikomori, mais déjà, est-ce que l'isolement des jeunes de manière générale, il est suffisamment pris en compte aujourd'hui par les professionnels de santé ?
Il a commencé à être pris en compte évidemment à la période du confinement, hein, pendant la crise Covid, où on a vu que 30%, il y avait 30% de demandes en plus de consultations psy et 30% d'ados qui allaient beaucoup moins bien qu'avant. Donc, on commence à en prendre conscience. Le mot, alors je suis étonnée que peu de gens le connaissent. Enfin,
oui, ça commence à être un petit peu...
Ça commence à être connu. Effectivement, il y a eu des mangas, il y a eu même un roman avec un homme d'une quarantaine d'années, un roman écrit par un Allemand, je crois, un auteur allemand. Bref, ça commence à être vraiment pris en compte, moi, à travers ce roman qui incarne Sacha, une jeune fille. Alors, les filles sont 20%, les garçons 80%. Il y a moins de filles.
D'accord.
Mais comme il n'y avait jamais eu de fille encore héroïne de roman, j'ai préféré en faire une fille. Mais puis, parce qu'on n'avait jamais parlé de ces fameuses 20% de filles, donc je trouvais ça intéressant. Voilà.
C'est un phénomène japonais parce que la culture de la solitude au Japon est différente de la nôtre ou vraiment vous pensez que c'est mondial ?
Alors, c'est mondial, mais c'est particulièrement présent au Japon et en France. Et
tous les... On est le deuxième pays.
Alors, oui, je ne sais pas si on est le deuxième pays. Enfin, en Asie, il y a aussi la Corée qui est très représentée par ce phénomène. Et d'ailleurs, en Corée, maintenant, ils estiment qu'à partir de 3 mois de réclusion et de solitude extrême des ados, il faut commencer à agir. Le Japon, c'est 6 mois.
Mais on agit comment au Japon ? Qu'est-ce qu'ils font ?
On consulte, on envoie des psys à domicile, ce qui n'était pas le cas avant. Mais voilà, j'ai oublié votre première question.
Comment les gens, l'entourage du coup qui doit agir, s'en rend compte ?
Alors, l'entourage s'en rend compte parce que l'ado refuse, enfin le jeune refuse de venir déjeuner. Mmh. Enfin, déjà, il ne va plus en cours. C'est évident que c'est le premier. Ça commence par l'absentéisme d'ailleurs. Mmh. Faut déjà se méfier beaucoup de l'absentéisme a priori. Il ne va plus en cours et puis c'est progressif. il continue à aller déjeuner et dîner avec ses parents, et, mais comme un véritable zombie. Mmh. C'est ce que m'expliquait un jeune que j'avais interviewé.
Dans l'enceinte de la maison.
Dans l'enceinte de la maison. Et puis, à un moment donné, où il ne descend même plus, enfin, il ne sort même plus de sa chambre pour aller prendre ses repas, et où les parents, c'est la fameuse image, moi, que je trouve frappante, d'un parent qui vient apporter le plateau repas.
Devant la chambre.
Et c'est fréquent au Japon, surtout.
Vous venez de dire trois mois, il faut s'inquiéter au bout. Je trouve ça long.
Oui. Alors, c'est-à-dire s'inquiéter. Oui, c'est vrai. Mais s'inquiéter très sérieusement, c'est-à-dire consulter, quoi. C'est vrai que non, je suis d'accord. Et puis il y a beaucoup de parents qui sont complètement démunis. Enfin, moi, j'ai interviewé notamment une mère que j'ai eue au téléphone il y a quelques années. Et puis je suis allée sur la page Hikikomori France. C'est une page Facebook, d'ailleurs, où éventuellement, si les parents ont des problèmes, ils peuvent se rendre.
Oui,
tout à fait. Et là, on voit le désarroi des parents qui ne savent pas quoi faire.
Mathieu Noël sur France Inter.
S'enfermer dans sa chambre, ne plus voir personne, ne plus répondre à personne, c'est le rêve actuel de François Bayrou. Mais c'est aussi le phénomène Hikikomori, dans le silence de ma chambre, aux éditions Albin Michel, Jeunesse. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Sophie Carquin. Sophie, la société japonaise, elle est réputée pour être extrêmement difficile, exigeante, surtout pour ces jeunes. La pression scolaire est énorme. Est-ce que c'est ça qui explique, en tout cas, en grande partie, le phénomène Hikikomori ?
Oui, alors il y a aussi le fait d'être atypique par rapport à la société. C'est ce que me disait une amie japonaise que j'ai appelée et qui m'a dit qu'effectivement, il y avait un proverbe japonais qui disait « quand un clou sort, il faut taper dessus ». C'est-à-dire...
Oui, tout est dit.
Donc effectivement, le privé, l'espace privé est très réduit, il faut s'intégrer. Et quand on ne s'intègre pas, c'est un peu la honte. La fameuse honte, ce sentiment très japonais.
Donc
voilà.
C'est le clou, il est sorti et là, on le cache, on met un mouchoir dessus.
Soit on tape dessus, soit l'individu il va rentrer lui-même dans sa chambre, du coup, enfin, tel un clou moyen.
Mais du coup, la pression qui vient de l'école, elle vient pourquoi ? Parce qu'ils sont harcelés à l'école ? Parce que c'est trop difficile ?
C'est super exigeant. C'est vrai que la société japonaise, ça exige de passer des concours super exigeants avant d'entrer à l'université. Donc du coup, ça se prépare en amont. Et on connaît le phénomène des établissements privés qui délivrent des cours. Alors, mon ami me disait, c'est à partir du CM1, c'est très rare qu'il y ait des enfants qui ne suivent pas ces cours jusqu'à 21, 22 heures le soir.
Se
développe maintenant à partir de la maternelle.
Oh bah.
Donc, oui, c'est de plus en plus tôt. Et on associe les deux, la société française et japonaise, sur le plan de l'exigence scolaire.
Ah, et vous trouvez que du fait cette exigence scolaire, on la retrouve en France, ce qui explique que, quelque part, on est des hikikomori, nous aussi.
Ben, oui, c'est-à-dire que les élèves, les ados, ils vont suivre parfois docilement. C'est un profil un peu particulier de gamins un peu hypersensibles. Et puis, tout d'un coup, ils vont craquer, et ils vont lâcher d'un seul coup et se dire « non, j'arrête ».
Si on vient à une personne, un hikikomori, donc, sur plusieurs mois, comme ça, s'enferme, quelle est la journée type d'un hikikomori? Il se lève, il déjeune, il se lave.
Alors, il ne se lève pas, déjà. Non, mais...
Premier point, t'as rien compris.
Non, ils ont souvent un rythme inversé. Veille-sommeil, c'est-à-dire qu'ils vont rester devant leur écran, souvent, effectivement, jusqu'au matin, quoi. Et puis, ils vont après se coucher le matin. Donc, déjà, c'est complètement antisocial comme rythme. On peut pas. Donc, effectivement, il y a beaucoup de vie virtuelle. Mais le virtuel n'est pas une cause, c'est une conséquence. Ils se réfugient dans les jeux vidéo, plus pour les garçons. Ça, c'est un peu genré, mais les réseaux sociaux. Mais effectivement, c'est pas la cause.
Mais parce que ça existait avant les réseaux sociaux. Il y avait déjà des hikikomori.
Ben oui, parce que dans les années 90, dans les années 90, il n'y avait pas de réseaux sociaux, non.
Mais du coup, ils faisaient quoi dans leur chambre là? C'était plus la lecture, c'était autre chose?
C'est ça, je ne sais pas. Mui. Mais oui, en tout cas, oui.
Les mangas, peut-être.
Les mangas, oui. Ouais, c'est probable.
Il y a un moment où il faut sortir de sa chambre pour des besoins humains, pour se laver.
Alors. Mon héroïne, elle vit en région parisienne dans une maison où elle a sa propre salle d'eau, réduit le phénomène. Maintenant, tout le monde n'a pas ça, et je pense, pour avoir un petit peu étudié la question, la nuit, ils sortent quand les parents ne sont pas là, ils sortent quand les parents vont travailler.
Ils ne veulent croiser personne, en fait.
Non, ils ne veulent croiser personne. Un regard, comme le dit Sacha, dans mon héroïne dans mon livre, pèse une tonne. Et c'est quand même... Enfin, moi, ça m'a toujours fascinée. Comment est-ce qu'on peut, quand on est un petit peu sociable, on peut se priver du regard des autres, du... C'est des jeunes qui ne veulent même pas parler. Et pour avoir essayé de communiquer avec un ou deux hikikomori... Ouais.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Eh bien, ils m'ont répondu par mail, déjà. Est-ce que je peux vous appeler ?
Non.
Non, je préfère par mail. Ouais. Donc, tout est vraiment... Bah, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont bloqués dans leur rapport aux autres.
Mais ils en ont conscience, c'est ça qui est fou. Enfin, c'est...
À certains, ceux que j'ai eus, oui, ouais. Ils en avaient conscience. D'autres sont dans le déni. Il y a des parents, justement, de la fameuse page Hikikomori France, page Facebook, qui disent, mais est-ce que vos enfants se rendent compte ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans le déni. Non, je sortirai demain. Non, mais je m'ennuie. L'école m'ennuie, etc. Donc, au Japon, ce que me dit mon ami, c'est qu'on en voit même au niveau de l'école élémentaire, ce qui me semble fou. Parce que chez nous, c'est quand même pas avant le collège.
Oui, c'est plutôt, on imagine des ados.
Mais il y a des adultes aussi ?
Après, au Japon, il y a des vieux hikikomori qui ont commencé en étant ados et puis qui sont toujours pas sortis.
Qui ont passé leur vie comme ça, avec un bol de nouilles dans leur chambre. Pardon, bah, c'est ce qu'ils qu'ils commandent. Hein. Ah oui, forcément.
C'est...
On est au Japon.
C'est vrai,
ils ramènent.
Des sushis aussi, oui.
Les sushis, c'est plus des sushis à la maison, c'est plus compliqué.
Après, il y a le problème quand les parents décèdent, les parents des hikikomori, ils se retrouvent seuls et même les parents... Non, ça... C'est un vrai handicap, quoi. C'est un handicap social.
C'est vrai, on fait vraiment le plein de fun cet après-midi. Zoom, zoom, vraiment, écoutez-nous et vous retrouverez le sourire. À rebours du syndrome hikikomori, lui, ses qualités sont connues. Capacité d'écoute, faculté à être en empathie avec l'autre et surtout, don inné pour conclure une chronique en beauté.
Avec Noël, respect et robustesse. Avec Noël, pardon. J'ai raté ma vanne.
Oui, t'as raté. Mais bon, pour Noël, gâtez vos proches, offrez-leur les plus belles fins de chronique de Quentin Lu. Inclus ses plus belles rimes.
Le royaume uni, désuni de l'Europe, un mot de notre époque misanthrope.
Quentin, chaque après-midi, en amont de ce méticuleux travail d'écriture, vous partez à la rencontre des gens. Et Quentin, c'est avec ce jeu de mots japonais sous le coude que vous êtes parti.
C'est pas un jeu de mots.
Ah non, j'ai cru que c'était un jeu de mots. Je pensais que vous, comme vous aimez les rimes, je dis peut-être un jeu de mots. Avec ce mot japonais sous le coude, hikikomori, que vous êtes parti dans les rues de Paris.
Et on commence avec un coup de chance. Philippe, pantalon de chantier, bonnet assez ample, yeux clairs et barbe de trois jours au reflet blanc, que fait-il dans la vie ?
Je suis jardinier tous les jours. À Paris, en France, en Europe.
L'arbre préféré, c'est quoi ?
Le ginkgo biloba.
Je sais pas ce que c'est.
C'est un arbre qui a 300 millions d'années, qui n'a pas évolué depuis qu'il est sur Terre. C'est un arbre qui pond des œufs et des ovules. Et c'est le seul arbre qui a repoussé après la bombe atomique d'Hiroshima.
Voilà, un petit point botanique historique, inattendu, qui fait du bien, puisqu'il me parle d'un arbre qui pousse aussi au Japon. Je le fais s'essayer à notre mot du jour.
Hikikomori. Et qu'est-ce que c'est ?
C'est un mot japonais.
Ouais.
Qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Absolument, ouais. J'en ai déjà entendu parler. Ce sont absolument pas des gens reliés à eux-mêmes, ni à la vie, ni à la terre. Ils ne sont surtout pas jardiniers, ces gens-là.
Oui, c'est juste. Merci, Philippe, pour ce constat. Mais alors, le fait de se couper du monde, il peut quand même comprendre.
Tout à fait, puisque je suis aussi pratiquant bouddhiste zen. Donc je fais régulièrement des retraites dans des abbayes de 10 jours, 12 jours, où on s'assoit et on ne bouge plus.
Bon, je vous avoue être peu surpris face à cet aveu de Philippe, mais est-ce que c'est comparable avec les hikikomori ?
Ils sont plus dans un recueillement, là. Ils sont dans le fait de se retirer. Se retirer du monde n'est pas synonyme de vivre au sein du monde. Donc se retirer du monde, c'est une condamnation, en fait.
Vous comprenez ?
Oui. Parce que la déprime peut amener énormément de comportements de repli sur soi. Animalement parlant, c'est tout à fait... Il y a du sens.
Comment on sort de ça ?
Il faut trouver un ami qui vous veut du bien. Ça peut être un déclic, ça peut être une parole, ça peut être un sourire, ça peut être un livre. Mais c'est tout le temps une pulsion de vie, en tout cas.
Une pulsion de vie. Chantal, à 79 ans, un foulard qui sent bon, les yeux bleus entourés de jolies rides. Chantal, clairement, elle n'a pas fait japonais LV2.
Ah non. Hikikomori, c'est un truc assez japonais.
Hiki.
Ah oui, même pas. Hikikomori, oui, je ne le connais pas.
Alors je lui explique ce million de personnes au Japon qui vivent recluses, enfermées dans une pièce, par choix, parfois même plusieurs années.
C'est bien possible. Moi je dis que ce sont des gens qui, sont pas, qui ont un petit vélo dans la tête. Hein ? Ils ne sont pas très normaux.
Oui, dans les cas les plus graves, les médecins peuvent diagnostiquer des psychoses ou des cas de schizophrénie.
Eh bien, bien sûr, voilà. J'ai une amie qui était comme ça. Ah oui, une voisine qui était comme ça, qui voyait personne, qui parlait pas. Donc ce sont des phénomènes qui arrivent souvent à côté de chez vous, et que vous n'imaginez pas.
Est-ce que Chantal entend par là que nous pourrions être plus empathiques et plus à l'écoute de ceux qui nous entourent ? C'est en tout cas moi ce que je pense. Tracy. Elle a la vingtaine, étudiante en pleine forme.
Hikikomori. Ah, d'accord. Moi, je suis tout le contraire de ça. Je sors tout le temps. Ah ouais. J'ai même attrapé froid, j'ai mal au crâne. Donc là, je commence à m'en remettre. Heureusement, c'est la dernière semaine avant les vacances. Ah, moi, je suis tout le contraire. Bah, je danse, je mange, je crie, je chante.
La voilà, l'école de la vie, la vraie, l'école Marianne Hoche. Elle réfléchit quand même avec moi à ce phénomène.
Je vais prendre un peu l'exemple du confinement. Dans ma tête, mentalement, je me sentais emprisonnée.
Il y a des gens qui ont aimé le confinement.
C'est vrai, ceux qui sont casaniers notamment.
Est-ce qu'un casanier, à force de casanerie, peut devenir un hikikomori ?
Il y a le fait qu'on se renferme, et il y a le fait aussi qu'on est très bien chez soi, dans son confort, dans son cocon, dans son espace personnel.
Alors le confort de nos foyers, numérisés, facilitant la vie sans sortir, sont-ils des pièges qui nous enferment ? Je passe maintenant devant un Monoprix, ils ont installé un piano où tout le monde peut jouer. D'habitude c'est une horreur pour mon oreille absolue, mais là, ça joue bien.
C'est Drake.
C'est quoi ?
C'est Drake.
Mathieu, dans sa doudoune d'une marque responsable, joue du Drake, ses cheveux en bataille, derrière ses lunettes. Il découvre notre mot du jour.
Hikikomori, qui est du japonais, peut-être ?
Ouais.
Le hikikomori, ce syndrome qui pousse les gens à rester enfermés chez eux. D'accord, un peu moins fun. Ok, bah déjà, c'est quand même, c'est un pays peut-être qui met l'accent là-dessus, qui met un mot dessus, qui montre que c'est peut-être quelque chose sur lequel on devrait intervenir. Mais en tout cas, je trouve que c'est un super sujet et c'est bien, c'est le sensibiliser. Je pense que ça, on parle du Japon là dans l'article, mais je pense qu'en France, ça touche énormément de personnes, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes célibataires, des retraités aussi. Beaucoup de retraités sont isolés. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'assos, beaucoup de collectivités pour pouvoir faire sortir les gens, quoi.
Un petit morceau de piano aux gens seuls. Qu'est-ce qu'on pourrait leur jouer ?
Qu'est-ce qu'on pourrait leur jouer ? Peut-être un morceau d'amour. C'est sûr.
Elle est présente, la solitude, dans notre société, dans la rue, on peut l'observer de loin ou bien la côtoyer de près, comme une multitude de récits de vie qui pourraient nous donner une jolie rhapsodie.
On renoue avec la rime.
Bien joué. On peut la rajouter. Hein,
que... Ah oui, la compile,
oui,
la
voilà,
compile pour Noël,
peut-être,
évidemment.
Je pensais que vous alliez chanter, évidemment. Moi.
Quentin, qui a donc fini quand même le nez dans le foulard de Chantal,
oui,
a eu
oui,
des
oui.
détails olfactifs dans ce micro-trottoir. Vous allez de plus en plus, toujours plus proche des gens, finalement. Hein. Sophie Carquin, cette solitude
oui.
dont parlent les passants que Quentin a rencontrés, elle se retrouve dans toutes les générations, finalement. Il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés par ça.
Oui, mais les jeunes, je crois, aujourd'hui, ça va pour moi aussi avec l'effondrement climatique, enfin, avec cette espèce d'angoisse de l'extérieur. L'extérieur est devenu menaçant. Et je pense que pendant la crise Covid, et ça je l'ai vu effectivement en allant faire mon immersion à la maison de Solène auprès des ados, que pour eux, c'était quasiment une dystopie. C'était la représentation d'une dystopie, le confinement. Vous vous rappelez, à un moment donné, on pensait que le microbe était dans les airs, enfin, qu'il suffisait de le respirer. Donc, s'enfermer, ça devient presque... C'est un prétexte, ça a été un prétexte pour s'enfermer.
L'éco-anxiété, ça nous fait nous replier.
L'éco-anxiété, que tout ça, ça joue, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'extérieur, l'autre, sont devenus des choses qui sont menaçantes. Et donc, qui nous poussent à nous installer chez nous, à vivre. C'est possible aujourd'hui de vivre entre nos quatre murs, sans bouger. Ouais. Sacha, elle se fait installer un vélo elliptique. Aussi dans sa chambre, on peut faire.
Au bout d'un, il y a aussi des causes psychologiques à tout ça derrière.
Sûr.
Enfin, c'est pas juste reste chez nous. Enfin, voilà.
Alors il y a deux phénomènes. Il y a les hikikomori primaires et secondaires.
Alors, dis-t'en
voilà. Vous. Alors les primaires, c'est quasiment, ça relève du choix. Enfin, il n'y a pas de pathologie associée. Les hikikomori secondaires, c'est suite à une dépression, une anxiété sociale, un autisme Asperger. Bon, là, on en voit aussi pas mal.
Mais
en
du
ce
coup, il y en a certains qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas dépressifs, qui n'ont pas Asperger, qui n'ont rien.
C'est quand même très étonnant. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu le cas de Sacha, mon héroïne, mais je trouve. Pardon, c'est presque plus poétique. Enfin, moi, en tant que romancière, c'est-à-dire que c'est une sorte de révolte muette face à la folie de notre société. Et ça, les psys le voient maintenant aussi. Il y avait une psy que j'avais interviewée qui m'avait dit exactement ces mots-là. C'est une révolte muette. Il faut les écouter, en fait.
Est-ce que ça peut être une posture aussi, genre assumer, se dire « je suis hikikomori et je vous emmerde
» Pourquoi pas ? Enfin, je sais pas, j'en ai pas rencontré. Moi, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, c'est jamais aussi facile que ça, parce qu'ils sont quand même un peu, sans doute pas bien, quand même tourmentés. Mais effectivement, se dire que... est-ce que c'est bon signe d'être adapté à une société folle ? C'est toujours la fameuse...
On peut tourner les
choses
comme
ça. Donc en fait, bah oui.
Chantal, la fameuse Chantal...
Qui sent bon.
Dit que l'isolement, c'est parfois des gens proches de nous, mais géographiquement, donc les voisins.
Mais oui.
On devrait être plus attentif à ça ? Avec les jeunes gens qui sont autour de chez nous, qui vivent peut-être seuls dans un studio.
Oui, c'est vrai que généralement, on le fait avec les personnes âgées. Enfin, on est très attentif à ça. Et les jeunes, beaucoup moins. Effectivement, et parce qu'on a l'impression qu'ils vont toujours s'en sortir, que ce n'est pas eux qui sont à plaindre, etc. Mais oui, on devrait l'être beaucoup plus, c'est sûr. Et déjà, être attentif à l'absentéisme, à la première heure séchée, bon, peut-être pas la première heure, mais la première journée entière séchée, et ça révèle toujours quelque chose, quoi. Mais je trouve que ça a un lien avec, vous rappelez, Tanguy, le fameux film d'Étienne Châtelier, c'était... En quoi, en 2000
Il était pas Kikomori.
Non, il n'était pas du tout Kikomori.
Il squattait chez ses parents.
Ouais. Oui, chez ses parents.
Ouais. C'est très, très différent. Bah, oui, c'est ça. C'est la version hard du Tanguy.
France Inter. Zoom, zoom, zen.
Du Japon, Manon connaît le saké, Quentin la catégorie bukkake sur Pornhub. Ses connaissances, on va dire parcellaires, seront-elles suffisantes pour triompher dans le quiz ? Non. Mais allons-y quand même, c'est l'heure du zoom zoom test. Direction évidemment le Japon cet après-midi, puisqu'on zoome sur le phénomène Hikikomori, le pays du soleil levant, qui n'est pas seulement le plus gros marché pour le compte OnlyFans Pied Léopard de notre réalisatrice Alicia Vulot, c'est aussi cette société fascinante où cohabitent traditions millénaires et tendances flippantes comme le Hikikomori, qui n'est qu'une tendance parmi d'autres. Manon, Quentin, partons à la découverte des phénomènes nippons les plus curieux. Nous sommes un samedi soir à Tokyo, dans le quartier festif de Shibuya. Antoine Bueno sort d'un Love Hotel, déguisé en chat porte-bonheur, sauf que chez lui, ce n'est pas la patte qui remue. Bref, un samedi soir comme un autre dans la mégalopole japonaise, où si vous vous promeniez, Manon, vous auriez la chance d'être probablement accosté par des adeptes du Nanpa, une pratique masculine en vogue au Japon qui consiste à se déguiser en rocker pour danser dans les parcs, se déguiser en BG pour pécho, ou se déguiser en sushi pour faire du sexe.
Oh là là.
C.
Bah non. B.
Oui, mais Manon, ce qui est bien dans le Zoom Zoom Test, c'est qu'il y a un moment où Manon peut exprimer ses fantasmes.
Non, mais pas
c'est
du
ça
tout.
C'est ça qui est important. Et on le note, et nos auditeurs le notent.
C'est pas ça.
Se déguiser en sushi peut être un plus. Non, c'est pas ça, Manon. C'est se déguiser tout simplement en BG. Réponse B, s'habiller haute couture quand on a 20 ans pour aller draguer en bande dans les lieux où abondent les piétons, ce que Cyril appelle larguer le chalut. Les Japonais appellent ça le nanpa, une pratique courante, mais pas forcément bien vue. Certaines zones particulièrement fréquentées affichant même des panneaux interdiction du nanpa. Ah bah tiens, justement, ils embarquent Antoine Bueno. Surtout, lui passez pas les menottes, ça risque de l'exciter. D'ailleurs, comme dit le proverbe japonais... Ce qui, je crois, se passe de traduction. Un peu comme la chanson suivante. Vous l'avez forcément senti, la magie de Noël est en train de monter doucement mais sûrement. Période enchanteresse, des sapins foireux, des pulls qui grattent, et souvent, dans les entreprises, d'une forme d'apaisement managérial où votre boss lâche enfin du lest. Sauf, évidemment, où Cyril met un point d'honneur à rester bougon 365 jours par an.
Silence, chroniqueur de bas étage.
Répondit-il hier à Manon et Quentin, lui réclamant une prime de Noël. Pour autant, Cyril n'est pas un monstre. Et même dans le management totalitaire, il y a une place pour le fun. D'où sa proposition d'organiser ce soir un nomikai. Pourquoi pas ? Mais c'est quoi un omikai ? Un Noël japonais avec le passage de Santa-san ? La cérémonie du meilleur employé de Zoom Zoom Zen ? Ou un afterwork de Burrachos ?
B !
Ah ouais, moi aussi je vois ça. A ! Pour dire autre chose. Mais sinon j'aurais dit...
Vous auriez pu dire autre chose qui vous aurait permis d'avoir la bonne réponse. Mais c'est trop tard maintenant, c'est un... Réponse C, bien sûr, pas d'augmentation, mais saké pour tout le monde. On a tous en tête ces images de salarymen ivre-mort qui dorment sur les bancs du métro de Tokyo ou dans des chambres capsules. Eh bien, c'est culturel. Le nomikai est une institution au Japon, généralement une initiative du N+1 à laquelle il est difficile pour les subalternes de se dérober. Les Japonais ont même un proverbe pour ça. Quand le dragon s'envole, la libellule doit suivre. Oui. Non, mais vous ne parlez pas japonais, faites-moi confiance. Oui, le Japon est une terre de spiritualité, mais parfois on est content de ne pas vivre au Japon. Car par exemple, si tel avait été le cas, en septembre dernier, que se serait-il passé au moment de l'arrêt du Zoom Zoom Zinc ? Cyril Lacarrière aurait dû se faire Seppuku ? Il aurait dû se faire Joetsu ? Ou il aurait dû se faire la folle dingo ?
B. Ah. Bah la C c'est déjà fait donc.
C'est déjà fait mais on l'embrasse d'ailleurs.
On l'embrasse.
Oui, Quentin vous dites
B.
B et
A, bah A.
Il aurait dû faire les deux. A et B. Oui, si Cyril avait été japonais, il aurait dû se faire d'abord seppuku, c'est-à-dire s'ouvrir en deux au sabre après l'arrêt brutal du zoom zoom zing.
C'est pas ce qu'il a fait.
Et comme en France, on n'a peut-être pas de sabre, mais on a des idées, ça a donné plutôt le Lacar News. Et si d'aventure cette séquence-là devait s'arrêter aussi un jour, alors il ne restera plus à Cyril qu'à faire comme des milliers de japonais, un joatsu, c'est-à-dire disparaître sans laisser de traces, abandonnant leur travail et leur famille. Il y a même des entreprises spécialisées dans ce business. Mmh. Cyril a d'ailleurs eu recours à leur service pour exfiltrer sa deuxième famille vers le Luberon. Ce qui nous renvoie évidemment à ce proverbe japonais qui résonne étrangement à l'oreille de Cyril. Attention où tu plantes ton bambou, une forêt pourrait pousser. Enfin, pour terminer, Manon, Quentin, pouvez-vous me dire pourquoi 90% des Japonais adoptés sont des hommes entre 20 et 30 ans. Vous avez bien entendu, c'est une vraie info.
Combien ?
90% des Japonais adoptés sont des hommes qui ont entre 20 et 30 ans. C'est une vraie statistique. D'après vous, pourquoi ? Parce que 90% des Japonais entre 20 et 30 ans sont des hommes. Parce que parité veut dire balèque en japonais. Ou parce qu'adopte un mec cartonne au Japon.
Les trois ?
A et B.
A. Non, en vrai, A et B.
A tout court.
C'est désolant, mais c'était la réponse B. Au pays du soleil levant, quand un chef d'entreprise n'a pas d'héritier mâle, écoutez bien Manon, ça va vous plaire, plutôt que de passer la main à sa fille, ce qui serait le comble de l'horreur, il préfère généralement adopter un homme, tant qu'à faire, après avoir arrangé le mariage. Autrefois, ça concernait les familles pauvres pour cultiver plus de terres. Aujourd'hui, la pratique sévit encore, même dans les grandes familles, comme par exemple chez les Toyota ou encore les Suzuki, les deux seules grandes familles japonaises que connaît Quentin. Mmh. L'occasion de conclure ce quiz avec ce très beau proverbe japonais. Trop de proverbes tue le proverbe. Victoire de Quentin, lui.
Ah non, mais j'ai tapé Kosu Sushi sur Internet. En fait, ça...
Il y a des belles choses.
Mais c'est pas un sushi, c'est un maki, ça. Mais
oui, mais c'est bon. Ça,
soyons précis, ah oui, précis.
Dans vos fantasmes, mieux, vous avez raison. Sinon, ça marche pas.
Zoom, les amis, sur un syndrome beaucoup moins drôle. Le syndrome Hikikomori, avec notre invitée, la journaliste et écrivaine Sophie Carquin, qui vient justement de sortir Hikikomori avec un E dans Le silence de ma chambre aux éditions Albin Michel Jeunesse. Sophie, dans votre livre, vous décrivez le mal-être de Sacha, qui ne quitte plus donc sa chambre depuis plusieurs mois. Vous parlez aussi de sa famille, de ses parents, de sa sœur. Comment les proches des Hikikomori vivent cette situation et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider un ado dans cette situation ?
Alors, déjà, effectivement, dans le livre, on voit très bien la réaction très différente de la mère, un peu qui supplie, qui vient apporter le plateau, donc trois fois par jour, sur le palier de la chambre de Sacha. Le père qui s'énerve et qui flanque des grands coups de pied dans la porte. Enfin, ça a duré pendant 8 mois, donc effectivement, au début, ça a été comme ça. Après, il s'est calmé. Et le père exigeant qui lui la menace, etc. Donc, c'est difficile d'échapper à ces deux positions, mais c'est super compliqué. Les parents sont démunis. Est-ce qu'on doit ouvrir la porte de force, sortir le corps de l'ado, le mettre dans la rue, mais pour qu'elle... Enfin, je veux dire, il y a des risques quand même. L'ado peut se retrouver dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va dealer pour... Enfin, j'ai entendu, moi, toutes les angoisses des parents. Alors, certains... et ça, je l'ai lu tout à l'heure, effectivement, en allant voir sur le site de cette fameuse page, emmènent leur enfant aux urgences d'un hôpital psy et le font hospitaliser pendant une semaine et ça marche. Donc ça peut marcher.
Ah oui, donc la solution est quand même parfois radicale.
C'est quand même radical, parce que c'est quasiment sous contrainte.
Qu'est-ce qu'ils font au Japon ? Parce que le phénomène Hikikomori, il existe depuis très longtemps au Japon. On l'a vu, la société japonaise s'est adaptée. Et
c'est adapté. Le problème au Japon, c'est que c'est toujours super mal vu d'aller voir un psy. C'est quand même, contrairement à nous, notre société est quand même devenue très tolérante. Enfin, qui n'est pas allé voir un psy dans sa vie. Et au Japon, c'est encore très mal vu. C'est toujours le phénomène de honte. Ils ont honte d'aller... Donc, ça veut dire que on évite, on se cache encore plus. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas trop ce qu'ils ont. Enfin, il y a des psys spécialisés dans ce sujet.
Est-ce qu'il y a des pathologies associées au syndrome Hikikomori ? C'est-à-dire que quand on est Hikikomori, on risque d'être aussi...
C'est parce qu'on est dépressif ou hyper anxieux ou hyper sensible qu'on peut devenir Hikikomori. Maintenant, les pathologies associées, l'obésité, par exemple, c'est sûr que quand on ne sort pas... Il y a un jeune que j'avais interviewé qui m'avait dit qu'il avait une vingtaine d'années et qui m'avait dit qu'il avait commencé à bouger à partir du moment où il s'était pesé et puis il s'est rendu compte qu'il avait pris... qu'il pesait 90 kilos. Et là, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Parfois, il y a des choses qui se déclenchent comme ça.
Un point qu'on n'a pas abordé, c'est la situation financière. Ça coûte de l'argent de ne rien faire. Le recul qu'on a au Japon, par exemple, comment des gens peuvent rester une vie sans rien faire dans une seule pièce ?
Il y en a peut-être qui deviennent champions de jeux vidéo et puis qui gagnent des petites sommes en...
Oui, non, c'est vrai, peut ça gagner peut... de l'argent. Ouais.
On peut gagner de l'argent, on peut jouer au poker en ligne. Non, mais ça, j'en sais rien.
Il y a souvent une famille qui met une part en plus, j'imagine.
Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que comme le jeune n'est jamais sorti de sa chambre, ils n'ont jamais cessé de le nourrir, effectivement. Oui, ça...
Est-ce qu'il y a des hikikomori heureux ? Je lisais un article qui parlait de ces personnes qui disaient « Ils passent leur temps à lire des mangas, à surfer sur Internet, à jouer sans limite aux jeux vidéo. Pour beaucoup, ces activités se font sans plaisir. La vie psychique est comme anesthésiée, sans désir, sans projection dans le futur. » Est-ce qu'il y en a ? Oui. Ça, c'est... on comprend que c'est le portrait général, mais est-ce qu'il y a des hikikomori qui trouvent ça tout à fait satisfaisant ?
Je pense que peut-être pendant quelques semaines, c'est quand même super confortable de se dire... mais satisfaisant, je ne crois pas que ce soit le bon terme. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi très bien de la part de Sacha, sans vouloir toujours revenir au livre, mais parce que c'est quand même un personnage de fiction qui a été créé d'après toutes les informations que j'ai pu récolter, c'est qu'elle, elle dit « Laissez-moi tranquille ». Elle veut récupérer une sorte de part d'enfance.
C'est syndrome de Peter Pan ?
Ouais, un peu, quand même. C'est-à-dire qu'à force d'avoir été hyper exigeant, et on le voit avec le père de Sacha, qui veut absolument qu'elle aille dans un bon lycée, qu'elle aille faire des bonnes prépas, etc. Et ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce d'hyper exigence qui vient mordre sur l'enfance. Au bout d'un moment, et ben, ils ont envie de récupérer cette part de gratuité. Vivre pour rien. Laissez-moi tranquille. Laissez pendant quelques temps.
Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez intéressée à une hikikomori femme, parce qu'elle représentait que 20%.
Oui, oui,
mais du coup, c'est quoi la différence ? Pourquoi il y en a si peu ? C'est plus compliqué quand on est une femme de s'isoler ?
Je pense que de toute façon, culturellement, c'est vrai que les filles, elles sont plus dociles. Bah, c'est terrible à dire, mais là, on est en train de bouleverser
tout. On est dans les stéréotypes.
Mais on est un peu dans les stéréotypes, mais... Surtout au Japon, probablement. Enfin, un garçon qui va peut-être plus se rebeller. Soit il rentre dans les codes, soit
il va avoir de la pression peut-être sur lui.
Oui, les garçons. Oui, les garçons ont plus de pression aussi culturellement que les filles. C'est sûr.
Sa rébellion est plus impressionnante encore.
Oui.
Dernier, on est passé un petit peu de temps, mais juste un dernier mot. Sotokomori, ça c'est autre chose.
Oui. Exactement, ben ça c'est intéressant, c'est ce que me disait une anthropologue. Enfin, oui, c'est une nouvelle définition, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui voyagent, mais qui n'adressent pas la parole à personne.
Ils inventent des trucs formidables quand même.
Oui, donc c'est ce que d'autres appellent un voyage pathologique, c'est-à-dire on voyage, mais on reste dans sa bulle totalement. On voyage dans sa chambre psychique, quoi, en fait.
Pourquoi pas ? Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon, mais qui est donc la personne à suivre ?
Je vous présente Tatsuhiro Satou. Il a 22 ans, il est japonais et il est ce qu'on appelle un hikikomori. Tatsuhiro est le personnage principal du manga Bienvenue dans la NHK, sorti en 2002, qui compte 8 volumes et un animé. Il a donc pour particularité de mettre en scène un personnage principal hikikomori, ce qui est très rare dans les mangas japonais. L'histoire suit donc Tatsuhiro Satou qui vit reclus depuis 4 ans, enfermé dans son appartement, après avoir quitté l'université en pleine crise existentielle. Il vit totalement coupé du monde extérieur, ce qui le rend complètement paranoïaque, au point d'être convaincu d'être victime d'une conspiration. Il est persuadé qu'il existe une NHK, une Nihon Hikikomori Kyokai, une association japonaise des hikikomori qui manipule les jeunes pour les transformer en hikikomori. Ce qui est drôle, c'est que NHK est un jeu de mots, car c'est comme ça que s'appelle l'entreprise publique japonaise qui gère les stations de radio et de télévision au Japon. Ça fait évidemment écho aux complotistes qui ont l'impression que les médias tentent de les manipuler. Et puis un jour, Satou fait la rencontre d'une jeune fille étrange qui lui propose de lui donner des leçons pour l'aider à le soigner. Un ancien camarade réapparaît aussi dans sa vie et ensemble, ils se lancent dans le projet de création d'un jeu vidéo érotique. Bon, grâce à ces deux personnages, Tatsuhiro Satou va tenter de se sortir de sa condition d'hikikomori, même si c'est très loin d'être simple. Le manga explore le mal-être des jeunes japonais et leur difficulté de se réinsérer dans la société. Heureusement, malgré son thème sombre, Bienvenue dans la NHK a aussi des ressorts comiques, notamment grâce au cynisme de Satou, qui est tellement exacerbé que ça en fait un personnage un peu tête à claque qu'on a quand même envie un peu de secouer. Ce qui est tout de même intéressant, c'est la façon dont ce manga résonne avec la jeunesse, et pas que japonaise. Je suis allée sur Reddit voir un peu ce que les gens en disaient, et beaucoup racontent que ça les a aidés de voir un personnage à leur image et pas un super-héros parfait. Ils disent que ça fait du bien de voir un manga traité de problèmes d'anxiété, de paranoïa et de solitude avec précision, que grâce à lui, ils ont une vraie prise de conscience. Tatsuhiro Satou est considéré comme l'un des personnages les plus réaliste et nuancé des mangas japonais. Il incarne à la fois la déchéance d'une jeunesse perdue et la possibilité de rédemption dans un monde où la solitude a parfois du bon, tant qu'elle reste éphémère.
Merci Manon. Le phénomène hikikomori, il n'est pas très traité dans la littérature japonaise ?
Pas tellement, en fait, je crois.
Il faudrait que votre livre soit traduit très rapidement, alors.
Oui, il va être traduit en russe, déjà.
En russe ?
Oui.
Je sais pas s'ils ont un problème d'hikikomori, là.
Peut-être qu'ils s'enferment pour éviter l'extérieur menaçant,
oui,
je ne sais pas.
C'est pas bête non plus.
Mais en tout cas, oui, voilà. France Inter. Zoom, zoom,
zen. Mathieu Noël. Le petit carnet de Zoom Zoom Zen, c'est tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, mais avec 12 minutes d'intro. Car j'en ai des choses à dire sur Pierre Courade, dont on a découvert hier l'inimitié avec François Bayrou. Lui, il est béarnais, moi je suis bigourdan, ça n'a rien à voir. Clem-tip dans l'open space depuis la nomination de Bayrou à Matignon. Nomination qui ne nous arrange pas, donc, puisque le spectre du contrôle fiscal pèse désormais sur toute l'équipe à cause de Pierre, que Bayrou déteste donc au point de demander spécifiquement à ne pas le croiser quand il vient à Radio France. Pourquoi le nouveau Premier ministre ne peut-il pas voir Pierre Courade en peinture ? Y a-t-il un vieux bail avec l'abbé Chibrard ? Réponse dans le prochain épisode. Et c'est parfait, Pierre, les présentations étant faites, il vous reste 12 secondes pour votre petit carnet.
12 secondes, comme l'abbé Chibrard, hein, j'ai l'habitude. On a parlé de l'hikikomori, un phénomène qui prend de l'ampleur au Japon et qui commence à frapper le continent européen, notamment la France, particulièrement touchée. Il s'agit d'ados, presque adultes, qui s'enferment pendant des semaines, voire des mois, même des années dans leur chambre par peur de la société qui les entoure. Ils seraient entre 500 000 et 1 million au Japon, plusieurs milliers en France. Un phénomène détecté chez nous dès le début des années 2000 par notre invitée, la journaliste Sophie Carquin, qui sort un roman sur ce sujet. Elle nous a expliqué que 80% des hikikomori sont des garçons, que le premier signe c'est un refus d'aller en cours, un isolement total dans leur chambre, au point de devoir déposer les repas sur le pas de la porte, la peur d'être différent, qui crée la honte alliée à une exigence pesante de la part de la société. C'est ça qui provoque l'hikikomori. Notre invitée nous a même parlé du poids du regard. Il faut aussi dire que l'hikikomori est parfois une conséquence d'un autre trouble psychologique sous-jacent, ce qui est d'autant plus perturbant pour les parents qui voient leur enfant s'enfermer dans sa chambre et ne plus vouloir en sortir. Difficile pour eux de savoir s'il s'agit d'une crise d'adolescence ou d'un vrai mal-être. Sophie Carquin a rencontré des parents totalement désemparés, prêts à envoyer leurs enfants en unité psy, ce qui est mal vu au Japon et ce qui nourrit un cercle vicieux. En France comme au Japon, quand les ados prennent le maquis, c'est qu'il y a un sushi.
Oh, là là, je sais pas, j'ai dit waouh, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment l'exclamation adaptée. Merci.
Ça venait du fond du cœur, Mathieu.
Moi, j'aime bien.
Merci Pierre. Vous êtes cliente. Merci Pierre. Et voici maintenant l'heure de la première militante anti-hikikomori, celle qui n'a jamais passé plus de 3 heures cloîtrée dans un même pays, celle qui est tout le temps en tournée, même quand elle n'a pas de spectacle. Sa chambre est un open space car personne ne peut l'enfermer. Mesdames et messieurs, Elena Nagapétian.
Bonjour à tous. Le terme, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, le terme hikikomori vient du Japon. Il désigne des personnes qui décident de rester cloîtrées chez elles, à ne pas confondre avec l'assignation à résidence, où il s'agit des personnes qui sont forcées de rester chez elles. Et en japonais, on les appelle Nikosarko. Les hikikomori s'enferment chez eux pendant des mois, voire des années. Ils ne voient pas leurs amis ni leurs proches. Ils refusent tout contact social. Pour moi, ça s'appelle avoir plus de 35 ans. Parce qu'après 35 ans, si tu acceptes de venir pour Netflix and chill, c'est pas pour Ken, c'est pour chill. Après 35 ans, la seule chose qui te rend heureux, c'est de rester chez toi et de rentabiliser le crédit de la baraque que tu viens d'acheter. Parce qu'après 35 ans, on n'a plus envie de voir les gens. Après 35 ans, on a du mal, même avec les collègues qui te racontent leur life alors que t'as rien à foutre, bon Dieu. Mais oui, Pascal, j'en ai rien à foutre. Ta vie est chiante à mourir, je le sais, tu le sais. Et puis, tu pues de la gueule, Pascal, vraiment. J'en peux plus. Non, mais tu vois, après 35 ans, on n'a plus envie de voir des gens. Que dis-je ? On n'a même plus envie de voir nos enfants. Je te jure, non, mais, et là, toutes les mères parfaites en PLS. Inadmissible de dire ça à la radio, mais il fallait pas faire d'enfants. Mais ta gueule, toi aussi. Ta gueule. J'ai des raisons de parler comme ça. Tu sais ce que mon fils de 7 ans m'a sorti hier ? Incroyable. Maman, t'es paresseuse parce qu'au lieu de cuisiner, tu te fais tout le temps livrer. Waouh ! C'est en séant que t'apprends le machisme, en fait. Oh. Déjà, mon obligation, c'est de te nourrir et pas de cuisiner. Et puis, c'est quoi ton but, en fait ? Tu veux me voir souffrir, en fait ? Tu sais que j'ai la phobie de la cuisine et de la gaz. Il me dit, c'est pas la gaz, mais le gaz. Oh. Ok, et c'est la das ou l'audace ? Non, mais... C'est vrai, je déteste cuisiner, je te jure. D'ailleurs, une pensée à toutes les femmes hikikomori qui sont cloîtrées dans les cuisines. L'angoisse. On est avec vous, les Afghanes et les Amish. Vraiment, on est tous ensemble. Mais que faire quand c'est ton ado qui décide de devenir hikikomokiki et refuse de quitter sa chambre ? J'ai une solution. Tu débranches la Freebox. Voilà, c'est très simple parce que c'est ça le cœur du problème. Internet, tu peux tout faire sans sortir de chez toi. Tu veux manger Uber Eats, tu veux ken Tinder, tu veux insulter des mères Twitter, mais sans les aides des parents ou du gouvernement, ça c'est les blagues qui font kiffer les gens de droite, ça. Et bah, sans les aides, il n'y aurait pas de Akiki Morikiki. C'est un peu un problème de gens qui ne connaissent pas la misère. Quand tu galères à joindre les deux bouts, comment tu veux t'enfermer dans ta chambre? Déjà, il faut avoir une chambre. Mais quand tu es dans ta chambre, vous êtes plus que dans une cellule à Fleury-Mérogis. Bah, ça devient compliqué. Après, je peux tout à fait comprendre le kiff de vouloir se couper du monde extérieur. Perso, ma plus belle période dans la vie, c'était pendant le confinement. Hein, c'est là où tu réalises que tu n'es pas une folle furieuse, c'est le RERA qui te rend psychopathe. Bref, pour clôturer, j'ai une solution. Mettre les gens qui veulent s'isoler dans des cabines de péage sur les autoroutes. Comme ça, ils font leur akiki morikiki tout en rendant service à la société. Moi, perso, sur ce, je vous dis ciao parce que j'ai un enfant à amener au resto.
Bien sûr, comme je vous comprends. Merci Elena Nagapétian. On vous retrouve dès la rentrée dans Zoom Zoom Zen et en janvier au Théâtre des Variétés à Paris. C'est bien ça. Merci à vous. Merci Sophie Carquin de nous avoir alerté sur ce syndrome hikikomori. Je rappelle votre nouveau livre, Hikikomori avec un E, dans le silence de ma chambre. C'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Zoom Zoom Zen.